Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Hello, vous écoutez Salut ça va,
le podcast qui veut briser les tabous autour de la santé mentale et vous donner des clés pour prendre soin de vous autrement.
Pour aller plus loin, on vous propose désormais un programme de coaching en ligne complet qui met en application des outils concrets et validés.
Rendez-vous sur takecare.co.
Bonne écoute.
Bonjour et bienvenue à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast. Mon premier épisode solo de la saison 3. Ça me fait toujours bizarre de me retrouver à parler seule à un micro. C'est vraiment un exercice qui n'est pas évident et qui peut me stresser un peu, on va pas se mentir. Certainement des restes de mon anxiété sociale. Mais ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. J'espère que vous allez bien et que vous êtes bien installés. Aujourd'hui, je voulais vous parler d'un sujet important, puisque c'est un sujet qui permet de poser certaines limites dans sa vie. Et on sait combien les limites sont importantes. On va parler de désaccord et surtout de comment pouvoir exprimer son désaccord. Exprimer son désaccord, ça peut être compliqué, stressant, voire même pour certains impossible. Et d'ailleurs, ça a pu l'être à un moment donné, pour moi aussi, impossible de dire que je n'étais pas d'accord. Souvent parce que, en fait, on a peur du conflit. Et quand on dit conflit, on a peur que la personne en face de nous n'accepte pas le fait est qu'on ne soit pas d'accord et que ce conflit-là, finalement, puisse même partir sur parfois une rupture dans la relation. Et donc, il y a plusieurs peurs qui peuvent rentrer en jeu. La peur du conflit, la peur d'être rejeté, la peur d'être abandonné. Et tout ça fait que souvent, on évite. On a souvent la sensation que éviter le conflit, d'ailleurs, est une façon de préserver la relation et de la protéger. Et finalement, on se rend bien compte que quand on ne s'exprime pas réellement et quand on ne pose pas réellement des limites, quand on ne dit pas qu'on n'est pas d'accord finalement, bah sur du long terme, ça peut quand même nouer pas mal de rancœur. Et on sait donc que même si ça peut protéger la relation sur du court terme, puisqu'effectivement, quand je ne dis pas mon désaccord, bah, j'ai plus de chances de rester on va dire, en lien avec la personne en face de moi, et bien sur du très long terme, on va pouvoir se sentir un peu parfois contrôlé ou manipulé par l'entourage, etc., etc. D'où l'importance de pouvoir exprimer clairement un refus ou quand on n'est pas d'accord. Après, j'aimerais quand même revenir sur cette notion de conflit, parce qu'on a souvent la sensation que être en conflit, c'est se disputer, comme s'il devrait y avoir une engueulade ou quelque chose de très intense ou voire même d'agressif. Déjà, il faut rappeler que quand on s'affirme et quand on exprime son désaccord, on n'est pas obligé d'être agressif. Hein. Si on est agressif, ce n'est plus de l'affirmation de soi. Mais au-delà de ça, de certains conflits naissent de belles choses aussi. Il faut se le rappeler. Et puis, qui dit conflit, dit juste point de vue divergent finalement. Ce n'est pas parce que je suis en conflit avec quelqu'un que de ce conflit-là, il va y avoir soit des gros drames ou une rupture de la relation. Et souvent, c'est aussi les points de vue divergents qui permettent aussi de mettre à plat les choses et de trouver des compromis. Parce que bien évidemment, on peut ne pas être d'accord et trouver parfois des compromis. C'est d'ailleurs même essentiel hein, quand on veut préserver ses relations. Ce qui va surtout compter, au-delà du fait de pouvoir s'exprimer, c'est bah, de rester finalement empathique avec la personne en face de soi et prendre en compte ses besoins, puisque bien évidemment, le besoin de l'autre ne prévaut pas sur le mien et mes besoins ne prévaut pas sur les besoins de l'autre. Et quand on a tendance à imposer d'ailleurs ses besoins, on n'est plus dans l'affirmation de soi, et quand on a tendance à se dire que ben, si je fais passer les besoins de l'autre avant les miens, j'ai plus de chances d'être aimée, ben, on est plutôt dans des comportements, ce qu'on appelle dit passif, on est bien d'accord que ça ne veut pas dire que, mais en tout cas c'est comme ça que on les nomme. Et dans ces comportements passifs ou dans ces comportements de soumission, parce qu'on a peur du conflit, ben en fait, nos besoins sont de moins en moins respectés. Et donc, sur du long terme, on peut en fait finir fatigué, avoir la sensation aussi de ne pas avoir de valeur. Parce que le fait est aussi de poser des limites, de dire quand on n'est pas d'accord, etc. C'est aussi s'accorder de la valeur. Et je sais à quel point c'est pas évident, parce que tout est lié finalement. Hein. On sait que l'estime de soi, la confiance en soi, l'affirmation de soi, ce sont quand même des termes qui sont assez différents et qu'on utilise parfois un peu sans distinction, mais l'estime de soi, la valeur que je m'accorde, elle va aussi conditionner la façon dont je vais pouvoir parfois me faire respecter mes droits, et du coup parfois aussi dire ben là je suis pas d'accord. Pour illustrer un peu tout ce propos un peu théorique, je vais vous raconter une petite anecdote personnelle, et on est d'accord que c'est personnel et que donc ça ne s'applique pas à tout le monde et que ce n'est pas une généralité, et d'ailleurs je ne ferai jamais de mon cas une généralité, mais peut-être que ça va plus vous parler comme ça. Je crois que la première fois vraiment où moi j'ai su exprimer mon désaccord, c'était quand je travaillais à Quick, chez Quick plutôt, parce que du coup j'ai beaucoup bossé pour payer mes études voilà, de psycho, etc. Je bossais même parfois plus de 20 heures par semaine. C'était une période qui n'était pas évidente pour moi. J'étais vraiment fatiguée, épuisée, parce que j'avais un rythme très intense. Je crois qu'aujourd'hui, j'ai toujours un rythme très intense, pour être honnête. Mais là, en plus de choses qui ne me nourrissaient pas, qui ne m'enrichissaient pas, et c'était compliqué à ce niveau-là. Je savais pourquoi je le faisais. Mon but, c'était vraiment de pouvoir payer mes études. Donc cet objectif-là me tenait suffisamment. Mais c'est compliqué hein, de faire des jobs, ce qu'on appelle des jobs alimentaires, hein. Souvent des travaux pour lesquels on n'y voit pas toujours du sens, qui ne correspondent pas toujours à nos valeurs. Et pire encore, quand on fait un travail alimentaire pour lequel déjà c'est dur de se motiver pour y aller, c'est de faire un travail dans lequel on a une hiérarchie qui peut être maltraitante. Et pour le coup, des hiérarchies maltraitantes, j'en ai quand même rencontré pas mal. pas mal face auxquelles je n'ai pas su réagir sur l'instant. Et en même temps, Dieu sait à quel point c'est compliqué hein, de réagir face à la maltraitance. Surtout quand on la connaît depuis longtemps. Mais je crois que du coup, Quick et cette manager de Quick marque vraiment, je pense, la première fois où j'ai su dire les choses de façon affirmée. J'ai su marquer mon désaccord de façon affirmée. Et vous savez quoi ? C'était hyper dur. C'est-à-dire que concrètement, on me parlait mal. Hein. Je me sentais pas bien traitée là-bas. On me ramenait toujours au fait que je faisais des études. C'était vraiment en mode, bah, tu fais des études, donc tu dois savoir faire ça. Bah, tu fais des études, donc tu devrais être meilleur que les autres. Bah, tu fais des études, donc. Et du coup, je me faisais un peu réprimander pour tout un tas de choses, voire un peu humiliée parfois devant les clients, jusqu'au moment où je suis sortie de Quick. Vraiment pas bien. Et je me suis assise dans ma voiture et je me suis dit non mais là en fait ça suffit de me faire marcher dessus, j'en ai marre, j'en peux plus. Mais j'avais peur, vraiment je me rappelle, je crois que j'avais 19 ans, 20 ans peut-être, j'avais peur du conflit, peur de me faire engueuler, peur des conséquences, alors que finalement je savais très bien que j'allais pas faire ma vie dans Squeak, et je savais aussi que j'avais quelqu'un en face de moi qui probablement ne pouvait pas faire autrement avec moi, ce qui n'excusait en rien ses comportements, hein, bien évidemment, mais qui visiblement c'était sa façon de communiquer. Mais moi, elle me convenait pas, et c'était déjà suffisamment dur comme ça pour qu'en plus j'y aille à chaque fois avec cette idée-là que de toute façon j'allais pas bien me faire traiter là-bas, quoi. Donc, je suis retournée dans ce restaurant. J'avais fini mon service. Je suis retournée dans ce restaurant Quick, stressée comme jamais. La boule au ventre, les palpitations, le cœur qui bat vite, la transpiration. Je savais hein, ce que je voulais dire. Je savais parfaitement. C'était très, très clair dans ma tête. Mais alors, pour que ça sorte, c'était encore plus difficile. Et j'avais pas encore cette notion-là de me dire que... c'était bien d'exprimer ses émotions, de dire en fait c'est difficile pour moi, que ça allait m'aider. Donc j'y suis vraiment allée, un peu comme ça quoi. J'y suis allée et j'ai demandé à ce qu'on discute avec cette manager et je lui ai dit en fait je n'accepte pas que tu me parles comme ça. J'avais la sensation d'être infantilisée et qu'elle me parlait comme ça, c'était du style « Alors Matine !» Enfin bon, vraiment, c'était vraiment, ça n'allait pas quoi. Et du coup, je lui ai dit, et elle m'a dit « Je t'amène direct dans le bureau de la directrice du Quick ». Bon, clairement, scénario catastrophe, c'était encore pire, donc je montais en hiérarchie, elle me traîne dans le bureau de la directrice, j'y allais pas avec joie, hein, on va pas se mentir. Et là, cette directrice m'a dit... alors comme ça que tu trouves qu'on te parle mal ? Je lui dis, ben oui, je me sens agressée en fait quand vous me parlez comme ça, je le vis pas bien. Et elle m'a dit, ben en fait, le jour où tu feras bien ton travail, on te parlera bien. Et là, je me suis dit, non. Là, je me suis dit qu'il y avait vraiment un problème. Alors déjà, parce que je savais hein, le travail que je fournissais et je suis suffisamment consciencieuse et rigoureuse, même si j'ai bien conscience aussi que je ne faisais probablement pas tout parfaitement. Mais en tout cas, je faisais de mon mieux. Et puis en fait, ça ne justifiait pas cette violence-là. Du coup, je lui ai dit, bah non, en fait, ça ne va pas se passer comme ça, ça va se passer autrement. C'est le jour où vous me parlerez peut-être mieux que moi, j'arriverai à mieux faire mon travail. Bon, il s'est avéré que ça s'est terminé où j'ai démissionné hein, de ce quick. Et même si au final, ce que je craignais, c'est un peu produit parce que ben pour le coup il y a eu vraiment du conflit, j'étais face à des personnes qui ben voilà, on va dire que le bien-être du salarié à ce moment-là et attention hein, c'est pas tous les la restauration rapide comme ça bien évidemment, mais là en tout cas ce n'était pas un endroit où le salarié et le bien-être du salarié étaient au cœur des engagements hein, concrètement, donc ça ne s'est pas bien terminé hein. Mais par contre je suis ressortie de là bien plus indemne que si je n'avais rien dit. Je suis ressortie de là en me disant, mais en fait, ok, on n'a pas été d'accord, ça s'est pas forcément bien terminé, mais tu as fait valoir tes droits et tu t'es fait respecter malgré tout. Et je me suis sentie fière quand même d'avoir pu tester.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
C'est ça. Par contre, ce qu'il faut retenir, c'est que ça ne s'est pas fait sans aucune émotion désagréable. C'est-à-dire que j'ai vraiment été terrorisée à l'idée de le faire. J'y suis vraiment pas allée comme si ça ne me faisait rien. J'avais peur, j'avais vraiment peur. Et ça marquait que le début d'un long, long, long entraînement où j'ai dû m'affirmer encore hein, face à des archis ou face à des personnes de mon entourage. Ça marquait un peu le début de tout ça. Et en fait, c'est encore un entraînement de tous les jours. C'est-à-dire que il m'arrive encore d'être confrontée à des situations où c'est encore compliqué, en fait, de m'affirmer. Déjà parce que il faut pas se leurrer. Aujourd'hui, l'éducation traditionnelle en France ne permet pas aux enfants de s'affirmer. On éteint un peu ça, hein, c'est-à-dire que les enfants, ils doivent obéir et on est peu centré sur ce qu'ils ont à dire, hein, parfois. Et donc, quand on n'est pas invité dès le plus jeune âge à s'affirmer, bah, c'est quelque chose qu'on perd et on apprend vite bah, la soumission, finalement, soumission à l'autorité, puisqu'on apprend à obéir et à ne plus forcément réfléchir, simplement à appliquer des règles sans comprendre vraiment pourquoi ces règles sont comme elles sont. Tout ça, ça conditionne le fait qu'on a clairement des difficultés à s'affirmer, on va pas se leurrer. Et encore plus quand cette soumission est associée à parfois même des maltraitances physiques ou psychologiques, il arrive aussi que, bah, en fait, quand on est face à quelqu'un qui est agressif, mais même pas forcément agressif, c'est-à-dire que quand on se dit bah, « là, il faut que je m'affirme », il y a aussi cette peur et on peut revivre des émotions en fait qu'on pouvait vivre en étant enfant. Hein. C'est-à-dire que quand il y a des traumas ou ce genre de choses, bah, parfois c'est paralysant, voire même sidérant. Et d'ailleurs, ça me fait penser au fait que parfois il n'y a pas de bonne façon de réagir face à l'agressivité. C'est-à-dire qu'on nous vend un peu le truc où il faudrait s'affirmer en toutes circonstances, à n'importe quel prix. Alors déjà, il ne faut pas oublier que les quatre comportements qu'on connaît, c'est-à-dire passif, agressif, manipulateur et affirmé, sont des comportements que nous utilisons tous, parce qu'ils ont tous des avantages et des inconvénients. Hein. Si on est en train de vous voler un truc, a priori, vous allez plutôt utiliser un comportement agressif si vous voulez avoir la chance de récupérer la chose qu'on est en train de vous voler, et ce serait plutôt adapté. Donc, ils ont tous des avantages et des inconvénients. Mais au-delà de ça, quand on est face à de la violence ou quand on est face à de l'agressivité, il est aussi normal qu'on repasse dans cette posture parfois de soumission, etc., parce qu'on a peur. Et que un cerveau qui a peur, c'est un cerveau qui cherche à se protéger et parfois même aussi et surtout un cerveau qui cherche à éviter la situation. Et donc on ne peut pas s'en vouloir de ne pas réussir à s'affirmer aussi face à des personnalités qui font peur. Alors c'est un peu général dit comme ça de dire face à des personnalités qui font peur, mais face à des personnes qui elles-mêmes ne savent pas en fait finalement s'affirmer et qui vont avoir tendance à adopter un comportement agressif ou un comportement manipulatoire comme façon de communiquer, mais qui du coup peut générer chez l'autre quelque chose de l'ordre de la peur. Donc s'affirmer oui, le plus souvent possible oui, mais sans culpabiliser de ne pas y arriver tout le temps. Comme je vous le disais tout à l'heure, ben moi, il y a des moments où j'y arrive pas. Je m'entraîne encore. J'y arrive aujourd'hui dans la majorité des situations de ma vie, dans la majorité des domaines de ma vie. Mais il y a encore des situations qui me ramènent à des choses compliquées et qui font que j'ai encore du mal. Mais en fait, j'ai envie de vous dire, on ne cesse jamais de travailler sur soi. Et c'est un combat de tous les jours. Et même si c'est parfois difficile et qu'on vit des émotions désagréables, c'est en acceptant de vivre ces émotions désagréables qu'on arrive à aller au-delà et à se prouver qu'on est capable et à se prouver aussi qu'on a de la valeur. Parce qu'en fait, c'est un cercle vertueux. Plus je m'affirme, plus je dis que je ne suis pas d'accord et plus les autres me respectent en fait, puisque je me fais respecter. Et donc, ça me renvoie au fait que j'ai de la valeur, ça nourrit mon estime de moi, ma confiance en moi. Bref, donc c'est plutôt quelque chose de positif. Après, voilà, il y a des personnes qui vont être très affirmées dans certains domaines de leur vie, pas du tout dans d'autres. Par exemple, vont être plutôt affirmés auprès de leurs amis, mais beaucoup moins au travail, ou beaucoup avec leurs conjoints, mais moins dans leur famille. Ça va pas convoquer les mêmes choses, en fait. Et parfois même, elles vont être affirmées avec toutes leurs amies, mais peut-être pas avec une en particulier, parce que cette personne-là a des comportements qui peuvent évoquer ou ramener à des choses plus compliquées. Donc, en fait, c'est... bienvenue chez les êtres humains, quoi. C'est compliqué, la psychologie c'est compliqué, le fonctionnement humain c'est complexe et on peut pas tirer des généralités d'une expérience comme je viens de vous le faire là et la coller à toutes les autres. Ce qui est sûr, c'est que à partir du moment où vous faites de votre mieux, c'est déjà le mieux et que moi je vous invite à essayer, en fait, à essayer pour vous d'abord et à tester. Et surtout à ne pas attendre de ne plus avoir peur pour le faire, parce que ça n'arrivera pas malheureusement. Vous ne réveillerez pas un jour en vous disant « Ok, aujourd'hui je me sens capable de m'affirmer et de dire que je ne suis pas d'accord dans cette situation ». Parce que se sentir capable au sens de « je n'ai plus peur ». Non, en fait, c'est normal d'avoir peur. C'est normal d'avoir peur et c'est normal que même après des années d'entraînement, il y ait encore des situations qui fassent peur. Par contre, après, ça se travaille. Ça peut s'accompagner aussi avec des gens qui sont compétents. Et on peut gagner aussi en qualité de vie comme ça. Parce que poser des limites et faire face à certaines personnes de son entourage ou à des gens qui peuvent parfois être maltraitants, même au travail ou ce genre de choses... c'est aussi une façon de se sauver la vie parfois, parce que c'est aussi reprendre, se reconnecter à soi, prendre conscience de ses besoins, de ses limites, faire valoir ses droits, et ça, c'est hyper important. Ce qui m'a vraiment aidée, au-delà du fait de me faire accompagner et de m'entraîner et de me forcer à le faire dans la majorité des situations de ma vie, c'est d'exprimer mes émotions quand même. Ne pas oublier que quand c'est compliqué, de le dire. De dire là c'est compliqué pour moi, ou de dire en fait j'ai peur d'avoir cette discussion parce que c'est compliqué pour moi d'être en conflit, j'ai peur que du coup tu me rejettes, j'ai peur que la relation s'arrête, bref. On peut avoir plein de craintes qui peuvent justifier qu'à un moment donné, on n'ait pas une discussion désagréable ou qu'on n'exprime pas son désaccord. Mais exprimer son émotion, ça peut permettre d'enclencher la conversation. Ça, je sais que c'est aidant. Voilà, ça a pu, j'ai vu que ça a pu aider des personnes qui l'ont essayé, des patients que j'accompagne et moi-même. Ça m'a grandement aidée. Et puis surtout, en fait, la répétition, le fait de le faire et de le refaire, en acceptant aussi que il y a des situations plus faciles que d'autres et que parfois on peut le faire de façon graduelle, en commençant par des situations qui ne nous génèrent pas trop de stress et en terminant par des situations où vraiment c'est très stressant pour nous. Retenir aussi que finalement on en sort quand même toujours plus indemne et que il faut pas oublier que tout peut être dit dans la mesure où c'est bien dit. C'est-à-dire que, évidemment, si je suis agressive, je suis responsable de l'émotion que je génère chez l'autre. On entend souvent, notamment dans le développement personnel, tu n'es pas responsable de ce que peut ressentir l'autre, etc., etc. Oui, mais attention à ça, on a quand même un impact sur l'autre. Il faut pas négliger l'impact que l'on peut avoir sur les autres ou les mots que l'on peut utiliser sur les autres. Dans la mesure où je suis respectueuse, respectueux, bienveillant, bienveillante, et que ma volonté et mon intention n'est pas de nuire, alors effectivement je ne suis pas responsable de ce que ça peut générer chez l'autre. Ça peut le blesser et elle a le droit, ça peut mettre en colère, ça peut générer toutes sortes d'émotions et c'est ok, ça peut être validé, sans problème, accompagné, mais je n'en suis pas responsable et je ne suis pas responsable du comportement que la personne en face de moi adopte. Par contre, effectivement, si je suis agressive, bah, je suis responsable que la personne se sente agressée. Voilà, hein, il faut quand même prendre conscience de l'impact que l'on peut avoir et de notre responsabilité. N'oubliez pas que la majorité des relations se font à deux. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez dans une relation, vous en faites la moitié, sauf la relation parent-enfant qui échappe un peu à cette règle, mais voilà, dans n'importe quelle autre relation, par contre, ben, vous aurez beau, par exemple, être respectueux, être bienveillant, etc., si en face de vous, vous avez quelqu'un qui a un mode de communication agressif ou manipulatoire, etc., ben, en fait, ça ne sera pas forcément de votre faute non plus. Donc, voilà, chacun sa responsabilité, mais ne pas tout se remettre sur soi aussi, ça peut être intéressant. Surtout qu'on a tendance à se sentir désolé pour tout et n'importe quoi, d'autant plus quand on n'a pas été habitué à s'affirmer, d'autant plus quand il n'y avait pas la place pour s'affirmer. On pouvait culpabiliser de le faire, ben, ne culpabilisez pas. En fait, vos besoins, vos droits sont tout aussi importants que ceux des autres. Et je pense que je vais terminer cette petite session podcast avec ça. Entraînez-vous, faites-vous accompagner si c'est compliqué. Ne pensez pas que tout le monde y arrive de façon automatique et qu'il y a des gens qui ne ressentiraient rien à l'idée de dire ce qu'ils pensent. C'est difficile, c'est même difficile pour ceux qui le font au quotidien. C'est même difficile pour ceux qui connaissent bien les mécanismes de tout ça dans certaines situations. Et c'est normal, en fait on est humain. Donc entraînez-vous et posez vos limites. Voilà, j'espère que ce petit épisode vous aura bien plu. J'espère qu'il vous aura apporté des clés et des outils. C'est rare quand je donne des anecdotes personnelles. C'était pas évident pour moi de le faire. Hein. Il y a toujours cette idée que ce qu'on attendrait d'une psychologue et en même temps je suis psy et c'est vrai. Et je suis aussi Mathilde et j'ai plein de choses et plein de casquettes dans ma vie. L'idée n'est pas de faire des généralités de tout ça, mais simplement peut-être de vous inspirer sur certains points. Et voilà, c'est l'objectif. En tout cas, et c'était l'objectif dans cet épisode. Prenez bien, bien soin de vous et je vous dis à la semaine prochaine.
Merci d'avoir écouté le podcast. Retrouvez-nous sur Instagram pour continuer à partager ensemble du contenu inspirant et éclairé ou tout de suite via notre programme de coaching sur programme.takecare.co. À la semaine prochaine.